Les deux premiers chapitres de la Genèse nous rapportent le récit d'une création parfaite, d'un bijou sur terre. La paix totale, complète et la beauté parfaite. Les deux derniers chapitres de l'Apocalypse nous permettent de comprendre que la recréation sera une œuvre parfaite de notre Seigneur, où il y aura là aussi une paix parfaite. Mais entre le chapitre 3 de la Genèse et le 20e chapitre de l'Apocalypse, c'est le récit de la guerre humaine, du vol, de l'assassinat, du viol, de l'inceste, de la tromperie, des guerres, de la violence et de la violence encore, jamais de paix. C'est notre histoire. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes entre Genèse 3 et Apocalypse 20. J'espère, comme pour le Covid, qu'on en sortira un jour et que le Seigneur, enfin, mettra un terme à la misère dans laquelle nous vivons, sans cesse en train de perdre des êtres chers, sans cesse en train d'essayer de survivre et de survivre le moins mal possible. Alors, dans ce récit de la Genèse, au chapitre 1 et au chapitre 2, il nous est dit tout ce que Dieu a fait. Il ne nous est pas dit comment il l'a fait, même si notre frère a lu un texte que je lui ai demandé de lire, où on a une petite opération chirurgicale. Ça ne nous dit pas comment Dieu s'y est pris. C'est un récit qui nous dit suffisamment de choses pour que nous comprenions que nous ne venons pas de nulle part ou du hasard, mais que nous venons bien d'un Père aimant. Comme il vous a été dit, vous avez lancé une thématique sur l'homme, la femme, la famille pour les sabbats qui viennent. Et j'aimerais focaliser notre attention plus particulièrement sur la femme ce matin. Et là aussi, vous le comprenez bien, depuis Genèse 3 jusqu'à maintenant, nous n'avons cessé de la maltraiter. Que disent les chapitres 1 et 2 ? Vous les connaissez certainement par cœur, ces versets. Et lorsque vous prenez simplement le chapitre 1er, le verset 26, vous avez un premier récit qui vous dit que Dieu a créé l'humain. C'est vrai, c'est le mot Adam qui est ici, il créa l'homme. Mais le mot Adam est un mot générique qui exprime aussi bien l'homme que la femme. Et un peu plus tard, l'homme s'appellera Adam, c'est-à-dire celui qui vient de la terre, le terreux. Et donc, lorsqu'on a cette première mention de la création, on a les humains qui sont créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur ces deux mots relativement complexes, mais simplement vous dire que si nous sommes hommes et femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu avait un projet d'une identité bien particulière pour les êtres humains qu'il a créés. Un projet différent que pour les végétaux ou pour les animaux ou pour les fleuves, les mers et les montagnes. Un projet d'être des enfants capables de réfléchir, capables de décider, capables de regarder ce Dieu, capables de dialoguer avec ce Dieu. Un petit peu plus loin dans le récit, il est mentionné au verset 27 qu'il a fait l'homme à son image, Adam, l'homme et la femme, et finalement, le texte nous dit, il a créé, puisque le texte précise de plus en plus ce que l'auteur veut nous faire comprendre, même si personne n'était présent lors de ce temps de création, il a créé un mâle et une femelle. Exactement les mêmes terminologies que pour les animaux. Un mâle et une femelle. Donc nous avons un premier propos qui nous est dit. Une humanité à l'image et à la ressemblance de la divinité. Un deuxième propos, cette humanité, pour qu'elle soit complète, Dieu a décidé de séparer cette humanité en deux groupes, un groupe mâle, un groupe femelle. Ça, c'est la première information, premier chapitre, qui nous est donnée par rapport à d'où nous venons et qui nous sommes. Oh, je ne peux pas vous expliquer comment Dieu a fait, ni exactement qui nous sommes. On parle volontiers de nature, on parle de ontologie, c'est-à-dire de qui nous sommes. Nous sommes en tout cas différents de Dieu, mais nous sommes ses enfants. Et on peut dire ainsi que la femme et l'homme sont ontologiquement identiques, c'est-à-dire de même nature. Il n'y a là pas de différence pour les deux. Le chapitre 2 va aller un petit peu plus loin dans l'explication de ce que l'auteur du texte a bien pu comprendre, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que lorsqu'on parle d'un Dieu qui crée, on ne comprend pas grand-chose. Lorsque vous avez Jésus qui voit un aveugle et qui lui redonne la vue, comment il a fait ? Un peu de boue, un peu de salive et ça marche. Essayez, mais ça ne marchera pas de la même manière. Quand on voit Jésus qui dit « sors du tombeau » et que les bandelettes éclatent et que l'individu sort du tombeau, je ne sais pas comment il a fait. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière physique d'interagir pour immédiatement guérir, pour immédiatement redonner la vie, ça appartient à Dieu. Donc ontologiquement nous sommes différents de Dieu, mais hommes et femmes, nous sommes ontologiquement égaux. Dans le chapitre 2, il y a deux ou trois petits indices qui nous sont donnés, sans pour autant que nous soyons capables de dire exactement ce qui s'est passé. Verset 7, par exemple, lorsqu'il est dit qu'il a pris de la poussière de la terre, et puis il l'a façonnée, et il a donné un élan de vie par son souffle, qu'on appelle aussi l'esprit, c'est le même mot que le vent, et puis il est advenu un être vivant, ou une âme vivante. Ça a été comment Dieu a créé l'homme. En même temps, si vous prenez un peu de poussière et que vous soufflez dessus, ça fera de la saleté, ça ne fera pas un homme. Donc, on n'a pas d'information scientifique, mais on a un dire, qui n'est même pas un dire qui s'inscrit dans l'histoire, puisqu'il n'y a pas de témoin. C'est un récit auquel nous adhérons volontiers par la foi, et nous comprenons que les choses que Dieu fait nous échappent. On a donc premier élément de ce deuxième chapitre, qui est le façonnage de l'humain qui va s'appeler Adam, parce que Dieu a pris de l'Adama, il a pris de la terre. Donc celui qui est issu de ce travail que Dieu fait s'appelle le terreux, le glébeux, celui qui vient d'en bas et qui y retournera d'ailleurs. Ce n'était pas prévu comme cela dans les deux premiers chapitres, mais à partir du chapitre 3, on sait que l'homme retournera, la femme aussi d'ailleurs. À partir de là, il y a un constat dans le texte. Le constat est que la création n'est pas terminée. Il y a eu tous les jours qui ont été créés, avec dans les jours différents éléments, que ce soit des éléments physiques, que ce soit des ruisseaux, des fleuves, séparation des eaux, en haut, en bas, que ce soit des végétaux, des animaux. On arrive au sixième jour aux humains. Les humains, on cloisonne le schéma en deux parties. L'homme, on vient de le voir, mais la création n'est pas terminée. Il manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire en sorte que la créature perdure. C'est-à-dire qu'il y ait des descendants à cette créature. C'est d'ailleurs un ordre que Dieu donne, multiplié. Ouais. Mais Adam, le pauvre tout seul, comment va-t-il multiplier ? Comment va-t-il faire des petits Adam ? Donc il y a un schéma qui nous est donné, à partir du verset 18 cette fois-ci, où le récit nous dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'humain mâle soit seul. Je vous rassure, le texte n'a rien contre la solitude contre le célibat, contre les personnes séparées qui dorénavant vivent seules. Ce n'est pas le propos du texte. Nous sommes dans le texte qui nous dit la création et qui nous dit le projet de création que Dieu a. On peut être un être parfaitement complet aux yeux de Dieu en étant une femme seule ou un homme seul. Les propos du texte sont complètement différents de cela. Mais pour terminer la création, Dieu dit, il faut que j'attribue à cet humain mâle qui s'appelle Adam, celle qui va le compléter. Et celle qui va le compléter, on va la définir avec deux expressions, si vous prenez le verset 18. Elle sera une aide, dit le texte, et elle sera une aide semblable à celui qui vient d'être créé. Le problème que nous avons avec le mot « aide », c'est qu'il est rarement un mot qui met en valeur la personne qui est une aide, en tout cas en français. Et généralement, une aide pour nous, dans nos sociétés, c'est une femme. Parce que certains hommes considèrent qu'elle ne peut faire que ça. Alors, c'est un mot très fort, ce mot « aide ». C'est un mot que vous pouvez traduire aussi par le mot « secours ». Et ce mot « secours » est à plusieurs reprises utilisé pour dire comment Dieu est par rapport à nous. Il est notre secours. On a d'autres mots pour qualifier Dieu, notre forteresse, notre bouclier. Et ce mot-là, selon un de mes collègues que vous connaissez, notre ami Jacques Doucan, qui est hébraïsant, ce mot qui est utilisé, le mot « etzer » ici, est un mot qui est synonyme du mot « bouclier », un bouclier, une protection. Et c'est un mot qui est aussi souvent utilisé avec l'idée de sauver. Alors nous voilà au cœur d'un vrai problème, d'un vrai débat. La femme est-elle une aide à l'homme qui est le maître, ou l'homme n'étant pas fini dans le plan de la création, l'homme humain, humanité, n'étant pas fini dans le plan de création, Dieu met avec lui ce qui lui manquait, l'élément protecteur de l'humain, l'élément fort de l'humain, celui qui est secours de l'humain mâle. Et le deuxième terme qui est employé, un être semblable à lui. Et là aussi, nous avons un mot qui ne nous dit pas grand-chose. Ce n'est pas le même mot que « semblable à Dieu » de tout à l'heure, du chapitre 1, verset 26. C'est un autre mot qui signifie un positionnement. Et le positionnement de ce mot en hébreu va nous dire que la femme n'est pas mise au-dessus de l'homme. La femme n'est pas mise en dessous de l'homme. Elle n'est même pas mise à gauche ou à droite, comme dans les mariages. On ne sait jamais si on doit rentrer à gauche ou à droite et comment on doit sortir. Vous vous souvenez de cela peut-être. Elle n'est pas placée là. Le mot qu'on traduit par « semblable » signifie « en face ». En face, vis-à-vis. Et lorsque vous avez un être en face de vous, vous avez un interlocuteur. Vous avez quelqu'un qui parle avec vous et avec qui vous parlez. Autrement dit, un être égal à vous. Il y a un texte que j'ai repris d'Ellen White, deux lignes, qui dit ceci dans Témoignage volume 3 en anglais, à la page 484. Elle dit « Lorsque Dieu créa Ève, il a voulu qu'elle ne soit ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais qu'en toute chose, elle soit son égale. » On n'a pas eu besoin d'attendre Ellen White pour nous dire cela, mais c'est bien qu'elle le confirme. Il suffit de lire les textes avec les outils que nous avons pour les lire et pour voir qu'il y a dans le chapitre 1 et chapitre 2, à aucun moment une suggestion de soumission, d'infériorité ou de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure pour clore cette première partie, chapitre 1 et chapitre 2 de la Genèse, nous dit quoi ? Dieu a fait passer devant l'homme mâle, Adam, les animaux, et il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il n'a pas trouvé d'être face à lui avec qui il puisse dialoguer. Donc, ce que Dieu fait, et il savait ce qu'il allait faire, là c'est le récit qui nous le dit, il va lui donner celle qui sera ce fameux secours, ce bouclier, ce salut pour que la création puisse perdurer. Mais le récit est subtil. Peut-être que l'auteur du récit, ou peut-être que Dieu lui a soufflé à l'oreille dans ce moment d'intimité, soyons prudents comment nous allons dire ce récit. Imaginez un instant que Dieu dialogue avec Adam, l'homme, et qu'il lui dise, Adam, on va créer ta femme. Chouette, je vais participer. C'est déjà fini. Parce qu'au moment où l'homme a cette prétention d'aider Dieu, il devient supérieur. Or Dieu, dans le récit, prend soin d'endormir l'humain. Une vraie opération chirurgicale, comme on ne savait pas faire à l'époque, certainement, quand l'auteur a écrit ce texte, hein, mais comme on sait faire maintenant. Il endort. Dieu, lorsqu'il agit en tant que créateur, n'a pas besoin du témoignage de l'humain, sa créature. Lorsque Jésus ressuscite par l'action de Dieu, personne ne voit comment Dieu a fait. On ne voit que les effets, les apparitions de Jésus en ville. Mais on ne sait pas comment il est sorti de ce tombeau. Dieu n'a pas besoin d'agir avec la complexité et la complicité de l'humain. Parce que l'humain aurait récupéré cela pour lui, comme on récupère sur le plan politique beaucoup d'actions des uns et des autres, ou des événements. Ici, l'endormissement est l'expression, le symbole, la manière, comme vous voulez, de dire « c'est moi qui fais, c'est moi le Créateur ». Tu ne sais pas comment ? Simplement de ton côté, certaines fois on traduit par la côte, d'autres fois par le côté, c'est un mot ambivalent, qui exprime une idée d'égalité à côté de toi. Et les théologiens disent, heureusement que l'auteur n'a pas dit « j'ai pris ta femme de ton pied ». Là, ça aurait été en dessous. Certains disent, heureusement qu'on n'a pas dit « je l'ai pris de ta tête ». Parce que ça aurait été peut-être, ah, elle est supérieure à toi. Du côté, de nouveau, une prouesse étymologique des termes, une prouesse de langage. Elle vient de ton côté, elle sera mise en face de toi. Et c'est là qu'Adam pourra dire à son réveil, sorti de la salle de réveil, il pourra dire, elle est os de mes os, chair de ma chair. C'est la même que moi. Mais elle a une différence. Moi, je suis Ish, elle est Isha. C'est-à-dire, moi, je suis un être mâle, elle est un être femelle, avec une égalité parfaite. Aucun élément de hiérarchie entre l'un et l'autre ne sont dénotés dans ces deux premiers chapitres de la Genèse. Avec Genèse 3, ça va aller mal, parce que vous connaissez le récit. Et le récit, sans le reprendre dans son ensemble, nous dit, eh ben, il y a une punition au chapitre 3 et au verset 14. Il y a une punition contre le serpent qui a tenté la femme, elle est tombée et l'homme a suivi. En même temps, au verset 15, il y a une victoire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête. Victoire de l'humain, victoire de la femme sur le serpent tentateur. Et puis on a, à partir du verset 16, une réalité. Vous vous souvenez peut-être que le chapitre 2 de la Genèse, les versets 15, 16 et 17, nous disait que Dieu a dialogué avec ses créatures pour leur dire « Attention, attention, il y a un choix maintenant que vous êtes dans ce jardin. Le choix, c'est de vivre ou de mourir. Voilà comment il faut faire pour vivre et voilà comment vous pouvez faire si vous décidez de ne pas vivre. » Je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais le choix a été fait de rompre la vie. Ça, vous le savez. Maintenant, lorsque Dieu dit au verset 17 du chapitre 2, « Tu mourras », l'auteur du récit nous dit « Tu mourras de mort ». C'est-à-dire, tu mourras certainement. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas d'issue de secours. C'est la vie ou c'est la mort. Et quand nous discutons entre nous, qu'est-ce qu'on se dit? Comment vas-tu? Et puis l'autre répond quoi? En général, ça va, parce qu'on n'a pas envie de dialoguer. Mais ça va. Ça pourrait aller mieux. Ça va comme des vieux. Je vous rejoins là. Ça pourrait aller mieux. Pourquoi? La mort, on s'en approche. Elle nous guette tous les jours. Donc quand on dit ça va, c'est qu'on essaye de dire on survit, mais on ne vit pas. La vie, elle est brisée. Nous survivons. Alors ça, c'est Genèse 2,17. La vie, avec un grand V, la mort avec un grand M. C'est l'un ou l'autre. C'est pas entre les deux. C'est pas je prends mes cachets jour et nuit pour essayer d'aller mieux. Non, je vais ou je vais pas. Et là, ça va pas. Mais, ce qui est beau, c'est que Dieu n'a pas mis à exécution son plan de manière radicale. En disant, tu as péché, c'est-à-dire tu as littéralement contourné l'arbre de la vie. Ça, c'est le péché, c'est contourner le but que Dieu avait fixé. C'est même le mot physique du péché qui indique cela. Et puis, tu es arrivé dans le camp de celui qui t'a attiré, qui est l'auteur de la mort, le Satan, l'ennemi, le diabolos dans le Nouveau Testament, celui qui met tout en désordre. Alors, que faire maintenant? Tu vas continuer à vivre, dit Dieu. Mais progressivement, tu te rapprocheras de la mort et ça va être difficile. Donc on a ce verset 16 du chapitre 3 qui nous dit « Il y a augmentation des souffrances de ta grossesse. » Ça n'empêche pas que c'est la femme qui donne naissance. Que c'est la femme sans l'homme qui a donné naissance au sauveur de l'humanité, le fameux petit Jésus. Pas l'homme. L'homme est tenu à l'écart du plan du salut. C'est Dieu et la femme qui sauvent l'homme et la femme. L'homme est au bénéfice d'un acte du ciel et de la femme. Certes, ça sera dur, ça fera mal, mais c'est grâce à toi que la vie va continuer. Alors tu continueras à te porter vers ton mari, tu auras des désirs, mais ton mari sera, dit notre texte, celui qui va dominer sur toi. Deux mots sur ce mot, sur ce verbe. Le verbe machal, c'est un beau verbe. C'est un verbe qui définit une seigneurie. Lorsque les auteurs de la traduction du texte hébreu en grec, qu'on appelle la Septante, avant Jésus-Christ, traduit ce texte, ils utilisent ce mot « Seigneur ». C'est le même mot que celui qui est donné pour Dieu ou Jésus, notre Seigneur, lui-même. C'est une seigneurie. Mais quel est le but de la seigneurie? Ne prenez pas exemple au Moyen-Âge. C'est bien sûr faux. Au Moyen-Âge, on est dans la faute, on est dans le péché, on est dans le mal, on est dans la guerre. Le Seigneur maîtrise, le Seigneur dirige, il a le droit de vie et de mort sur ses sujets. Il a le droit d'en abuser. Droit de l'homme, ça vient bien plus tard. Ici, être seigneur, c'est en même temps être protecteur. Un protecteur aimant. On pourrait lancer le dialogue. La femme a commis une erreur, la première, certes. C'est le texte qui nous le dit. L'homme a commis la même erreur, le deuxième. Qu'on soit premier ou deuxième, on retourne à la poussière, les deux. Et là, le texte nous dit, la femme, Genèse 2, 18, était celle que je t'ai donnée comme aide, secours, protecteur. Elle a failli. Maintenant, tu deviendras son protecteur, son seigneur protégeant, celui qui domine dans un sens aimant, un dominateur amoureux de ta femme, un protecteur amoureux de ta femme. Ça, c'est pour le dire de la création et de la chute. Maintenant, lorsqu'on franchit les temps et les espaces, on arrive non pas directement à notre époque, parce qu'on n'a pas de texte biblique de notre époque, mais on arrive au premier siècle. Et au premier siècle, on rédige le Nouveau Testament. Et dans ce Nouveau Testament, il y a des évangiles, il y a l'Apocalypse, il y a des livres historiques, mais il y a aussi des lettres, des épîtres. Et si vous prenez l'épître aux Éphésiens, par exemple, bien, vous avez un exemple qui nous est donné au chapitre 5, que, en général, les femmes n'aiment pas beaucoup qu'on cite, et que les hommes se régalent à citer. Éphésiens, chapitre 5, qu'est-ce que c'est? À partir du verset 15. Vous savez, les églises que Paul a créées vont pas mieux que nos églises maintenant, hein. Il faut pas croire que ça allait mieux. Il y a des tensions, il y a des dissensions, il y a des faux témoignages, il y a des accusations, il y a des radiations, il y a des loups ravisseurs, pour prendre l'image biblique, qui rôdent autour de la bergerie et qui viennent enseigner de fausses doctrines, comme maintenant. L'homme ne change pas, même si ça fait 2000 ans, c'est le même humain. Donc il va dire au verset 15 du chapitre 5, mais en fait, il y a de tout chez vous, insensé, débauché, il y a de ceux qui, comme chez les Philippiens, parce qu'il dira les mêmes choses, se croient supérieurs aux autres. Et c'est ça qui marche mal chez vous. Alors, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Et ça, c'est un beau verbe, parce qu'il est utilisé dans le langage du Nouveau Testament, le grec du Nouveau Testament, à un mode que nous ne connaissons pas en français, qui est la voie moyenne. Lorsqu'on utilise un verbe à la voie moyenne, cela va impliquer que celui que l'on enjoint à accomplir cette action le fait parce qu'il le veut bien. Soumettez-vous les uns aux autres n'est pas un impératif. Mais si vous voulez que les choses fonctionnent bien dans vos églises à Éphèse, soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire, respectez l'autre, considérez l'autre comme il est celui qui est au moins de la même valeur que vous. Peut-être supérieur, mais jamais inférieur. À partir de là, vous pourrez rétablir le dialogue. Et à partir du verset 22, Paul va donner un exemple à l'église d'Éphèse. C'est comme cela que devrait être la femme par rapport à son mari. Il n'y a pas une répétition du verbe « se soumettre » ici. Mais très souvent dans les traductions, on répète le verbe « soumettre » au verset 22. Il n'est pas dans le texte de Paul. Il est au verset 21. « Les Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. » Exemple, C'est ainsi que dans le foyer, ça devrait fonctionner. La femme devrait se soumettre à son mari, parce que le mari est la tête de la femme, dit le texte. La tête. Genèse 3,16, le Seigneur, maintenant la tête, ça revient à peu près au même. La tête, c'est quoi? Ça a deux sens dans le langage grec. Ça peut être la source, ce qui vient de la source d'une rivière, la tête d'une rivière. Mais ça peut être aussi une autorité, bonne ou mauvaise. Alors, comment Paul présente-t-il la tête de la femme? Quel homme? Il la présente en corrélation avec ce qu'est Jésus pour l'Église, quand vous lisez la suite. Et lorsqu'il dit « Jésus a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle », parce qu'il est sa tête, Jésus est la tête de l'Église, c'est le même mot. Ainsi, l'homme doit aimer sa femme. Être capable de donner sa vie pour sauver sa femme. Sentez le Seigneur, la tête de la femme, n'est pas un dominateur, un grand mâle qui, content de sa puissance, va dominer sur la pauvre créature que Dieu a mise à côté de lui. Non. C'est celui qui aime tellement qu'il ne doit pas refuser de mourir pour elle. C'est ainsi que Paul parle. Et à la fin du texte, de le verset 32 et 33, que se passe-t-il? Il y a un regard bilatéral. Amour réciproque, soumission réciproque, respect réciproque de l'un vis-à-vis de l'autre vis-à-vis de l'un. La notion de Seigneur de Genèse 3, la notion de tête d'Éphésiens 5 sont mises en relation avec ce que le Seigneur de l'univers, Jésus, a fait pour l'humanité. Il a aimé, il a protégé, il a guidé, il est mort pour sauver. Je n'irai pas plus loin ce matin pour définir ce que les textes nous disent sur et de la femme. Je voulais la placer dans son contexte d'un récit créationniste et dans son contexte d'un récit épistolaire pour montrer que la femme a sa place aussi bien que l'homme partout dans la société, partout dans l'Église. Je vous laisse deux lignes d'Ellen White dans un beau livre qu'elle a écrit sur le sermon sur la montagne par rapport à Éphésiens. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens d'Éphèse, déclare que le Seigneur a établi le mari tête de la femme pour être son protecteur. Pour être son protecteur. Mes amis, hommes et maris, sommes-nous des protecteurs de la femme en général et de nos épouses en particulier? Et sur ce texte, très souvent, on insiste sur quoi? Femme, soyez soumise à vos maris. On oublie que le texte continue et que c'est le sortir de son contexte que d'insister sur la soumission. Et c'est d'oublier de dire que le verbe soumettre ici est au mode moyen qui indique que c'est bien volontiers que la femme le fait parce que l'homme l'aime jusqu'à mourir pour elle. Que Dieu nous aide à comprendre ces textes et à les vivre. Amen.